Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question dont tout le monde connaît le nom, quelqu'un qui est archi connu, c'est Pierre Corneille. On parle toujours de Corneille et de Racine, les deux grands dramaturges français d'il y a quelques siècles et qui ont marqué tellement la littérature française, qui est aussi la nôtre. Et à ce moment-là, nous étions, nos familles, nous qui sommes ici depuis 300 ans, nous étions en France. Nous partions. À peu près au moment où ces pièces comme Polyeucte étaient présentées en 1643, un an après la fondation de Montréal, nos familles étaient en partie ici, d'autres arrivaient. C'est donc l'auteur de Polyeucte, Pierre Corneille, quelqu'un qui nous appartient, et je dirais donc qu'il est de notre littérature. Pierre Corneille est mort en 1684, assez âgé, où il avait 78 ans, je crois. Et on peut le considérer, du moins c'est Stendhal qui le dit, et plusieurs autres, comme le plus grand. Et j'ajoute qu'il a traduit en vers toute l'imitation de Jésus-Christ. J'ajoute aussi, ça peut vous intéresser, puisque c'est un poste religieux sur lequel je vous parle, qu'il a récité son bréviaire pendant les 30 dernières années de sa vie. C'est quelque chose, hein? Imaginez, en la quarantaine, il a commencé à réciter son bréviaire, et tous les jours. Stendhal dit de Corneille qu'il était immensément supérieur à Racine. Pourtant, d'autres préfèrent Racine, Jean Racine. C'est que Corneille peint des héros généreux. Des personnages qui sont lucides et volontaires. Ce ne sont pas des gens qui sont soumis à un destin, qui sont pris dans une tragédie dont ils ne peuvent, pour ainsi dire, pas sortir. Car pour ces personnages, à Corneille, c'est l'honneur et la gloire qui méritent tous les sacrifices. Alors il a donc écrit des pièces en particulier profondément chrétiennes comme Polyeucte. En somme, le drame cornélien atteint le sublime, mais refuse à proprement parler le tragique. On pourrait pas dire que c'est un tragédien, c'est un dramaturge. Parce que le drame cornélien, c'est le fait d'être libre qui décide toujours du destin de ses personnages. Quand il a écrit l'imitation de Jésus-Christ en vers, un travail énorme, ça lui a pris des années et des années, dans les années 1650. Mais il y en a qui ont dit que ce labeur lui avait été imposé par un confesseur, en pénitence de vers libertins qui lui auraient échappé dans sa jeunesse. Je les ai lus, ces vers libertins, je vous les lirai pas, mais disons que il y a là un certain mépris de la femme, il se fait des maîtresses, il prétend-il, je crois qu'il se vante un peu, et qu'il les remplace facilement au bout de 2 heures par une autre. C'est de la des écrits de jeunesse, évidemment, d'un jeune volage qui veut impressionner les gens autour de lui. De toute façon, cette allégation, que ce soit un confesseur qui l'ait demandé ou obligé de traduire l'imitation de Jésus-Christ en vers, c'est une pénitence épouvantable, c'est énorme. Ça a été démontré que c'était faux, hein, complètement faux. D'autres supposent qu'il a entendu racheter par là l'emploi assez profane qu'il avait fait à l'occasion dans certaines pièces de théâtre de son génie. Ce génie qui vient de Dieu. Et des jansénistes à l'époque, car il y avait tout le courant des jansénistes de Port-Royal, comme Nicole, Monsieur Nicole, qui estime que les pièces de Corneille, malgré son effort, lui, à les rendre pures, sont contraires à la morale de la Bible et propres à corrompre les cœurs. De toute façon, quoi qu'il en soit, il s'est consacré à cette tâche de traduire l'imitation, et ce n'est pas en vain, car sa paraphrase de l'imitation, comme dit si bien le préfacier aux œuvres complètes des œuvres de Corneille dans l'édition de la Pléiade, chez Gallimard, deux bouquins, deux beaux livres merveilleux, magnifiquement imprimés, ça a été publié déjà longtemps. Mais c'est toujours sur le marché, les éditions complètes, l'édition complète des œuvres de Corneille dans la collection de la Pléiade. Alors, quoi qu'il en soit, donc, il s'est donné à cette tâche, et ce ne fut pas en vain, car sa paraphrase de l'Imitation est un de nos trésors lyriques, dit ce préfacier, et la majesté de ses grands vers unis et probes est incomparable. C'est tout un hommage. Car c'est pas n'importe qui, celui qui écrit ça. Le préfacier, c'est un des plus grands spécialistes sur Corneille. C'est Pierre Lièvre, et qui a annoté les œuvres, vu cette édition complétée d'ailleurs par Roger Caillois. Et elle a eu un succès inattendu, cette Imitation de Jésus-Christ. Les libraires ne fournissaient pas. La première partie, en 1651, je pense qu'il a publié la première partie, contenait les 20 premiers chapitres. Puis ça a été 32 fois réimprimé, imaginez tellement ça avait du succès. Et son Imitation a été publiée par morceaux, donc à mesure de sa réalisation. Sa mise à jour entière s'est échelonnée sur plusieurs années, comme je vous ai dit tout à l'heure, s'est achevée en 1656, ça a été dédicacé au pape. On peut dire que ça a été alors l'unique travail où s'est attaché à cette époque Corneille, puisqu'il avait vendu en 1650 les charges qu'il remplissait depuis si longtemps, et qu'il se trouvait par conséquent libéré de toutes les occupations que lui donnait cette nouvelle profession, si on peut dire. Et pendant les années qui ont suivi l'achèvement de l'Imitation, il a semblé persister dans son dessein de ne... son projet, sa décision de ne plus écrire. Il est devenu marguillier de sa paroisse, il allait à la messe souvent. Il ne se souciait sans doute plus que de sa famille, qui avait maintenant 6 enfants. Hein. Et ce temps-là, rien ne nous reste au fond qu'un petit texte où il présente l'ouvrage d'un dénommé Campion, et puis il écrit ses 4 vers. Je vous les lis parce que ça dénote qu'il avait une certaine confiance, une certaine fierté, une certaine assurance. Il dit « J'ai quelque art d'arracher les grands noms du tombeau, de leur rendre un destin plus durable et plus beau. » Écoutez bien, il dit « De faire qu'après moi l'avenir s'en souvienne, le mien semble avoir droit à l'immortalité. » Alors, il a confiance en lui-même. Et l'introduction de Pierre Lièvre est absolument passionnante. Ce Pierre Corneille est né à Rouen, la ville où est morte Jeanne d'Arc, en Normandie. Il est né le 6 juin 1606, rue de la Pie, donc justement non loin du lieu où a été brûlée Jeanne d'Arc par les Anglais, et près de l'église Saint-Sauveur où il a reçu le baptême. À 9 ans, il est entré dans un collège, le collège de l'endroit, là, tenu par les Jésuites. Il a été formé par les Jésuites, puis il leur en a toujours été très reconnaissant. Rue du Grand Maulévrier, c'est aujourd'hui le fameux lycée Corneille de Rouen. Et d'ailleurs, je m'inspire d'un texte écrit par un prêtre, l'abbé Vacandard, qui est un très grand spécialiste de Corneille, qui a écrit des ouvrages extrêmement importants. Sur lui, il a écrit l'âme religieuse de Pierre Corneille dans les études de critique et d'histoire religieuse, paru en 1923, et c'est toujours un ouvrage remarquable, de même que celui d'Auguste Dorchin, Pierre Corneille, paru en 1918, et qui demeure aujourd'hui un ouvrage de référence important. Et alors donc, à 9 ans, donc, il entre chez les Jésuites. Puis il n'avait pas 14 ans lorsqu'il a remporté en rhétorique, il avait 13 ans quoi, lorsqu'il a remporté en rhétorique le prix de versification latine. Il écrivait déjà des vers latins, vous voyez le talent qui se dessine. Et après ce qu'on appelait la logique à l'époque, c'est-à-dire la philosophie là, et les sciences qu'on appelait la physique, bien il quitte les bancs du collège des Jésuites en 1622, il est tout jeune encore, Quoi, il a 16 ans. Il étudie le droit. Puis il est reçu avocat à 18 ans. Et là, avocat à 18 ans. L'éducation qu'il a reçue marque son âme. Hein, d'une empreinte qui est ineffaçable. Hein, je vous ai dit, il a resté son bréviaire les 30 dernières années de sa vie. Il est marqué par la formation religieuse des jésuites. Et Pierre Corneille est l'un des plus grands et des plus fidèles disciples des jésuites. À travers toute sa vie, il se tourne vers ses maîtres avec des gestes de reconnaissance. Et moi aussi, aujourd'hui, je le fais encore. Je me retourne vers mes maîtres jésuites du Collège Brébeuf et je les remercie. Je les remercie du fond du cœur de tout leur dévouement. Dévouement sans borne à mon égard. Je pense au père. Oh, je les nomme pas, je les oublierai. Mais le père Genet, le père Fortin et quantité d'autres. On peut voir à la bibliothèque de la Sorbonne un exemplaire de l'édition In Folio de son théâtre paru en 1664 où il écrit sur le titre cet envoi en latin, on appelle ça un envoi, n'est-ce pas, une dédicace si vous voulez, au père de la compagnie de Jésus, ses très vénérés maîtres, témoignage de gratitude de Pierre Corneille. La fidélité du souvenir s'affirme encore plus solidement, si on peut dire, lorsqu'il connaît tous les plaisirs puis la gloire de la paternité. En 1640, en effet, il épouse Marie de Lampérière, dont il a eu 7 enfants en tout, 4 fils et 3 filles. 6 ont survécu. Il veut que ses anciens maîtres, les jésuites, tiennent lieu de parents à ses fils. Ça va loin. Alors, tous les 4 garçons sont élevés au collège jésuite. Il va plus loin. Il demande même à l'un des professeurs de devenir le parrain de son 4e fils. C'est le père Charles de la Rue qui lui donne le nom de Charles, d'ailleurs, lors du baptême à ce 4e fils. Et lorsque le père de la Rue publie en latin un long poème sur les victoires du roi en l'année 1667, Pierre Corneille s'empresse d'en donner une traduction française. Il dit, il écrit, j'étais bien aise de pouvoir donner par là quelques marques de reconnaissance aux soins que les pères jésuites ont pris d'instruire ma jeunesse à moi et celle de mes enfants et à l'amitié particulière dont m'honore l'auteur de ce panégyrique. Et Corneille, devenu grand spécialiste de la tragédie, encourage à son tour le père Charles de la Rue à composer la tragédie de Sylla. Et là, Pierre Corneille, dramaturge, n'est-ce pas, ne manque pas de soumettre ses œuvres au jugement des jésuites même. Et s'il y a des détracteurs, bien, il fait donc précéder en 1667 la publication d'Attila d'un avis au lecteur que je vous lirai tout à l'heure. Alors, Pierre Corneille a eu des détracteurs, et c'était des jansénistes, il y avait Nicole et d'autres, là, qui lui reprochaient de faire du théâtre, parce que faire du théâtre, c'était servir Satan. Bon, ils étaient vraiment bornés au suprême degré. Et alors, comme je vous ai dit, en 1667, il publie Attila. Il met un avis au lecteur et voici ce qu'il dit. C'est très sympathique parce que ça a du nerf, ça a du caractère. On voit, il a été formé par des bons jésuites. Il dit, on m'a pressé de répondre ici, par occasion, aux invectives qu'on a publiées depuis quelque temps contre la comédie, contre le théâtre, quoi. On appelait ça la comédie. Et en particulier, la comédie, c'est les choses avec, oui, comique. Mais, il dit, je me contenterai d'en dire 2 choses. Pour fermer la bouche à ses ennemis d'un divertissement si honnête et si utile. Écoutez bien. L'une, que je soumets tout ce que j'ai fait et ferai à l'avenir à la censure des puissances tant ecclésiastiques, il faut lire les jésuites, là, que séculières. Donc, les puissances ecclésiastiques religieuses, les jésuites, puis séculières, les autorités, sous lesquelles Dieu me fait vivre, dit-il. Je ne sais s'ils en voudraient faire autant, ces détracteurs. Hein. L'autre chose qu'il a fait, il dit que la comédie est assez justifiée par cette célèbre traduction de la moitié de Terence, que des personnes d'une piété exemplaire et rigide, les jansénistes de Pont-Royal, ont donné au public. Alors, avec des censeurs tels que ses amis les jésuites, Pierre Corneille se sent tout à fait rassuré sur le caractère moral de son œuvre. C'est pas drôle, on a eu ça à Montréal pendant un certain temps, les mêmes problèmes, il y a déjà 50 ans et plus. La formation dramatique de Corneille n'est pourtant pas à proprement parler l'œuvre des jésuites. S'il a connu, grâce à eux, par l'enseignement, les Grecs, les auteurs grecs, les auteurs romains, s'il a appris avec eux à aimer Lucain et Sénèque, c'est ailleurs que son goût du théâtre s'est développé. Oui, il faut pas oublier qu'il fut un familier de l'hôtel Rambouillet. Qu'est-ce que c'est l'hôtel Rambouillet? C'est la duchesse de Rambouillet qui avait un hôtel particulier, là, une grande maison, où elle recevait des gens de la noblesse et les gens supposément bien pour discuter de toutes sortes de choses littéraires et musicales, etc. Et dans ce monde de précieux et de précieuses, c'était vraiment des précieux, des snobs, on dirait aujourd'hui, eh bien, la lecture de Lastrée, l'influence espagnole aussi de Quevedo, de Gondora, la Diane de Montemayor, puis l'influence italienne aussi avec la Donne de Marino, puis le Pastor Fido de Guarini, puis etc., et même les œuvres du Tasse. Mais ça fait surgir toute une floraison d'idées sentimentales et extraordinaires qui imprègne l'atmosphère de la haute société de l'époque, haute société, oui, bon. Et c'est dans ce milieu que s'est développé Corneille. Alors, au moment où il commence à se faire connaître, et même avant tout le monde, il fait des comédies ou des tragédies Hardy, qui était très connu dans ce temps-là, H-A-R-D-Y, mort en 1632, 4 ans avant le Cid de Corneille, a écrit plus, lui, de 700 pièces. Il est alors dans toute sa gloire. Une espèce de poète qui écrivait comme une machine. Il produisait, imaginez, 10 000 vers par an. Et c'est lui qui a vraiment fondé la tragédie, par son sens profond quand même du tragique, par l'énergie du dialogue aussi, puis la lutte des personnages. Et ce n'est pas tout. 7 ans avant le Cid, il y avait Méret aussi, M-A-I-R-E-T, qui fait jouer sa sophonisme en 1629. C'est la première tragédie à peu près, disons, régulière et naturelle, qui est calquée d'ailleurs sur la sophonisme italienne du Tricin. Là. Et la pièce de Méret est donc, c'est pour ça que je vous en parle, elle est pour Corneille, alors simple poète comique, une révélation. Ça part de là. Et là, il en fait, lui, de sérieux emprunts. Et puis, il apprend par Méret, justement, l'art de la tragédie. Et on pourrait dire que cette espèce de machine géniale est partie, là. Ça commence. L'Hercule mourant de retrou aussi, en 1634, va compléter son apprentissage. Alors, la formation de Corneille est donc très nette, hein. D'une part, les jésuites, et d'autre part, l'hôtel de Rambouillet, puis tous ces gens cultivés. Alors, il écrit Mélite en 1629, puis Médée en 1635. Et il essaie dans la comédie d'Imbroglio, là. Alors, à la mode, en attendant la bonne comédie avec le menteur qui est un pastiche, puis quelquefois une traduction, même mot à mot, de la vérité suspecte d'un auteur castillan qui s'appelle Alarcón. Mais en 1634, là, Rotrou donne son Hercule mourant, puis immédiatement Corneille lui produit Médée, en 1635, Médée. C'est la pièce annonciatrice de son génie, ça commence en 1635 avec Médée, le génie jaillit, et la sophonisme de Méret, lui a d'abord appris comment on pouvait faire des tragédies ordinaires, selon les règles. Mais le modèle immédiat était pour lui l'Hercule mourant de Rotrou, qui est une vraie tragédie. Et un an après Médée, éclate un coup de génie, c'est le Cid qui est joué. Ah là, immense acclamation, plus de longueur, des vers constamment sublimes, ça se lit comme une source d'eau. C'est un thème simple, dramatique, passionnant. Mais malgré l'imitation de Guillaume de Castro, le Cid est bien de Corneille. Et comme je disais au début, bien notre première grande tragédie française, la voilà, c'est le Cid. Je dis notre. Nous sommes héritiers en même temps, nous étions tous ensemble, là les Français et nous. Hein. Et ainsi donc, Corneille a écrit 8 pièces en 5 actes avant de pouvoir dégager sa personnalité. Ça prend du temps. C'est du travail. On s'étonne d'un tel effort quand on voit sa maîtrise, hein, la hauteur où il arrive est tellement prodigieuse qu'on pourrait dire que le miracle serait pour lui de se maintenir à des hauteurs pareilles. Et cependant, Corneille s'élève plus haut que le Cid dans Horace, Cinna et Polyeuc, qui sont des chefs-d'œuvre incomparables, qui lui valent l'honneur d'être appelé le père de notre théâtre. On sait pourtant l'opposition que Polyeuc a rencontrée à l'hôtel de Rambouillet chez les snobles. Son inspiration lui sera fidèle encore dans le cinquième acte de Rodogune et certaines scènes de Pompée, de Théodore, de Nicomède et d'Attila. Il a beaucoup écrit, comme vous voyez, mais à partir de Nicomède, c'est le déclin et Corneille redescend la pente de son génie. Ce que Corneille a apporté au théâtre, ce qui est vraiment de lui, écoutez bien, c'est le génie de sa langue et surtout la grandeur de la pensée. Avant lui, le théâtre se cherchait. Mais Pierre Corneille l'a trouvé, lui. Tout ce que promettaient ses prédécesseurs, bien Corneille le réalise. Il contient, à lui tout seul, tous les auteurs de son temps. Il a le même génie qu'eux, avec cette différence, oui, cette différence, que ce genre de génie, chacun l'avait un peu, à l'état, intermittent, des petits morceaux, et que chez lui, chez Pierre Corneille, ce génie a été complet, continu, permanent. Je parle de ses chefs-d'œuvre, évidemment. Il a élevé le théâtre et le vers dramatique à une hauteur où personne n'atteindra jamais. Racine ne l'égalera parfois qu'en créant un autre théâtre de psychologie avec une langue absolument harmonieuse, d'accord, mais pour la grandeur des caractères puis la force du langage, là, les héros de Corneille sont incomparables. C'est bien ce que je vous ai dit au début. Au-dessus de Polyeucte, Voltaire lui-même ne mettait rien. Il mettait rien au-dessus de Polyeucte, Voltaire. Puis pourtant, c'est un trame très chrétien. Alors, on entre, disons, dans quelques détails. Sans vouloir analyser les pièces de Corneille, on n'a pas le temps. Mais on peut remarquer qu'aucun poète n'a préconisé avec plus de ferveur la pratique du devoir. Il écrit ceci, un beau vers. « Faites votre devoir et laissez faire au Dieu. » On n'en parle plus du devoir aujourd'hui. Mais lui, il écrivait, « Je n'ai pas. » « Faites votre devoir et laissez faire au Dieu. » Cela suppose un assouplissement vraiment solide de la volonté. Et ici, on retrouve l'empreinte de l'éducation des jésuites, quoi. Les jésuites se proposaient quoi, à l'époque, et jusqu'à tout récemment, se proposaient de former avant tout chez leurs élèves la volonté. Je sais pas si on forme encore la volonté dans nos collèges. Les jésuites ont perdu leurs 5 collèges au Québec, hein, vous savez ça, hein? Oui, Garnier à Québec, Saint-Ignace, Sainte-Marie, Brébeuf et Loyola à Montréal. Et c'est un mystère pour personne que les jésuites tâchaient d'arriver à ce but par l'habitude de l'obéissance. Selon les jésuites, et qui oserait dire qu'ils avaient tort, il n'y a pas de volonté plus forte que celle qui sait obéir. Il n'y a pas de volonté plus forte que celle qui sait obéir. Surtout quand elle est mue dans sa soumission par un motif supérieur, et quel motif plus élevé peut-on proposer à la volonté que l'accomplissement du devoir, justement, le devoir moral, le devoir politique, le devoir social, évidemment, puis, pour couronner de tout, le devoir religieux. C'est dans cette atmosphère d'idées généreuses qu'est baignée et trempée l'âme de Corneille et toute son œuvre littéraire sans récent. Prenons un exemple. Qu'est-ce que le Cid, si ce n'est un poème en l'honneur de la volonté maîtresse de l'homme et créatrice de gestes nobles? Et pour parler du Cid, le fameux Dorchin dont je vous ai parlé tout à l'heure, disait « Ce sont les beaux mots de la langue française qui reviennent obstinément sous la plume. » Et quels sont ces mots? C'est « devoir »,« amour », »,« honneur », »,« la famille », »,« le pays », »,« la gloire ». Il circule continuellement dans la pièce. Il la commande et jamais on a respiré sur la scène un air plus vivifiant et plus pur, celui des altitudes de l'âme. C'est ce qu'écrit ce spécialiste. Où sont les pièces de théâtre où on nous propose de telles valeurs? Aujourd'hui, il est question de Pierre Corneille, grand chrétien. Et peut-être, comme le dit Stendhal, le plus grand des écrivains français. Et cet écrivain nous appartient dans un sens, car il date du XVIIe siècle, avant et au moment de la fondation de Montréal. Et alors, dans toutes les pièces, à partir d'un bon moment, là, les personnages de Corneille vont rivaliser de générosité. Il n'y a pas de hauteur morale à laquelle il semble que ces personnages ne puissent s'élever. Ainsi qu'on l'a remarqué, c'est Sully Prudhomme qui le dit, ce tragédien Corneille nous transporte comme par enchantement. Voici un exemple. Un vers. Dans un monde où tout l'homme aspire à se grandir. Dans un monde où tout l'homme aspire à se grandir. Il n'y a rien au monde qui puisse arrêter ces héros dans leur ascension. L'un d'eux les incarne tous et les résume quand il s'écrit « Je suis maître de moi comme de l'univers, je le suis, je veux l'être. » Et pensez au vieil Horace auquel échappent ces paroles, hein, qu'il mourut. Il y a là un cri humain sublime, mais le plus beau, c'est celui de Polyeucte. Je vous lis des passages de Polyeucte. C'est Félix, son beau-père, sénateur, un Romain, qui dit « As-tu donc pour la vie une haine si forte, malheureux Polyeucte, et la loi des chrétiens t'ordonne-t-elle ainsi d'abandonner les tiens ?» Polyeucte, lui, c'est son gendre de Félix, c'est un Arménien, c'est un chrétien solide. « Je ne hais point la vie, et j'en aime l'usage, mais sans attachement qui sente l'esclavage, toujours prêt à la rendre au Dieu dont je la tiens. La raison me l'ordonne, et la loi des chrétiens. » Et je vous montre à tous par là comme il faut vivre si vous avez le cœur assez bon pour me suivre. » Ce sont des vers, moi, que je trouve très beaux. C'est très émouvant. Plus loin, Polyeucte dit à Félix, « Je n'adore qu'un Dieu, maître de l'univers, ce qui tremble le ciel, la terre et les enfers, un Dieu qui, nous aimant d'un amour infini, voulut mourir pour nous avec ignominie, et qui, par un effort de cet excès d'amour, veut pour nous en victime être offert chaque jour. Mais j'ai tort d'en parler à qui ne peut m'entendre. Voyez l'aveugle erreur que vous osez défendre. Les crimes les plus noirs, vous souillez tous vos dieux. Vous n'en punissez point qui n'est son maître aux cieux. La prostitution, l'adultère, l'inceste, le vol, l'assassinat et tout ce qu'on déteste, c'est l'exemple qu'à suivre offrent vos immortels. J'ai profané leurs temples et brisé leurs autels, je le ferai encore, si je vais à le faire, même aux yeux de Félix, même aux yeux de Sévère, même aux yeux du Sénat, aux yeux de l'Empereur. » Alors Félix lui dit, « Enfin, ma bonté cède à ma juste fureur. Adore-les ou meurs. » Et Polyeucte lui répond, « Je suis chrétien. » Alors Félix ajoute, « Impie. Adore-les, te dis-je, ou renonce à la vie. » Et Polyeucte lui répond toujours, « Je suis chrétien. » Et Félix lui dit, « Tu l'es, ô cœur trop obstiné. Soldat, exécutez l'ordre que j'ai donné. » Alors Pauline, qui est là, lui dit, « Où le conduisez-vous ? » Et Félix, le sénateur, lui dit, « À la mort. » Et Polyeucte répond, il répond, non pas à la mort, en fait. Alors Félix dit, « À la mort. » Et Polyeucte dit, « À la gloire. » C'est de la tragédie du temps passé, mais c'est très beau. « À la gloire. » Il y a un portrait que j'avais vu de Pierre Corneille au musée Carnavalet à Paris. Une tête pourtant bien normale. Un homme, je dirais presque ordinaire. C'est surprenant. C'est surprenant. La mort, l'idée de la mort, se perd ici chez Pierre Corneille comme dans un rayon d'immortalité. C'est la terre qui touche au ciel. C'est l'homme qui s'élève jusqu'à Dieu. Voilà Pierre Corneille. Terre qu'il s'offre à nous dans l'épanouissement de son génie et de sa langue. Et tout cela semble dépasser, on pourrait dire, l'humanité ordinaire, quoi. Le théâtre de Corneille ne repose ni sur l'étude des caractères, non, non, ni sur l'observation des sentiments vrais, mais sur l'action héroïque, la lutte héroïque, l'âme héroïque, tout ce qui manque aujourd'hui. Où sont nos héros? On en a, mais pas assez. Ces héros sont des personnages de théâtre bien plus que des hommes. Entendons-nous. Les héros de Corneille représentent une humanité qui dépasse, semble-t-il, les forces naturelles de l'homme. Naturelles de l'homme. Mais le surnaturel survient. Leurs sentiments, leurs gestes merveilleux, leurs cris sublimes, leurs actes extraordinaires sont bien dans la pensée de Pierre Corneille, des actes, des cris, des sentiments humains. Il se peut que Dieu, par sa grâce, n'y soit pas étranger. Mais il révèle aussi de l'homme, ça relève de l'homme et de son libre arbitre qu'il utilise à bon escient. Mais c'est justement ce qui en fait le mérite, c'est ce qui en fait des actes humains. Oui, humains, mais nourris de Dieu. Corneille est donc un professeur de morale et de haute morale, en grand sens, le bon sens du mot. Le genre littéraire qu'il a adopté répond bien au rôle de moraliste qu'il entend tenir auprès de ses contemporains. Et le théâtre peut être une école de morale, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a une incompatibilité entre le théâtre et la foi chrétienne? Or, de son temps, on discutait de ces questions, puis on en discute encore. On a peur d'un théâtre chrétien pourtant. Il y en a du bon théâtre chrétien, il s'en fait encore. Il s'en joue à Paris, j'assistais à des pièces merveilleuses, même une sur Marie de l'Incarnation. Il a déçu, les avis ont été partagés. Il ne faut pas trop s'en étonner au premier rang des détracteurs de la comédie, comme on dit, la comédie en général, pour placer Bossuet dans les réflexions. Ses réflexions, ça reste classique, ça, ses réflexions. Il est peut-être permis d'y trouver quelques excès dans la sévérité de Bossuet, mais cette sévérité ne paraîtra pas trop grande si on la rapproche du jugement que Racine a porté sur le théâtre. Lui-même, Racine, et en particulier sur ses propres œuvres, hein, parce que c'est au ce Racine qui a écrit Andromaque, hein, au lendemain de Phèdre, était pris et possédé tout à coup par l'esprit malsain et janséniste de Port-Royal. Il en est venu à déclarer, comme le dira son propre fils, ouvrez les guillemets, que les auteurs de pièces de théâtre sont des empoisonneurs publics et à reconnaître qu'il est lui-même le plus dangereux des empoisonneurs. Pauvre Racine. C'est encore l'esprit de Port-Royal des fameux jansénistes qui inspire le frère du grand Condé, le prince de Conti, lorsque, pour faire oublier qu'il a protégé Molière, il voue à l'enfer dans un traité de la comédie, et il enveloppe dans une même condamnation Tartuffe de Molière, puis le Cid de Corneille, Don Juan et Cinna, l'école des femmes et Pompée, et même au nom du ciel, bien entendu, Polyeucte, qui a choqué le sens chrétien de l'hôtel Rambouillet où la société, je vous l'ai dit, très précieuse, snob, là, se réunit autour de la duchesse de Rambouillet. Pauvres gens. Heureusement, le théâtre de Pierre Corneille est aussi apprécié par les simples spectateurs. Et les grands spectateurs aussi, parce qu'il y a la reine Anne d'Autriche, qui a pour l'auteur du Cid de Pierre Corneille, l'auteur de Polyeucte, hein, un véritable culte. Corneille, nous dit sa confidente Madame de Motteville, Corneille, cet illustre poète de notre siècle, a enrichi le théâtre de belles pièces dont la morale peut servir de leçon à corriger le dérèglement des passions humaines. Il n'y a rien de mal à corriger les dérèglements des passions humaines. C'est pas en le laissant aller les passions humaines comme on les laisse faire aujourd'hui que les gens vont trouver le bonheur. Le suicide, les divorces, la solitude, le désespoir. C'est ce qu'engendrent les passions humaines quand elles sont déréglées. Une passion bien conduite, ça donne le bonheur. Sans prendre à la lettre la boutade de Voltaire assurant que, il disait, nous devons en France l'opéra et la comédie à deux cardinaux. Qui ça, deux cardinaux? Mais enfin, on peut remarquer que le cardinal Richelieu puis le cardinal Mazarin ont favorisé le théâtre de Corneille. Oui, en vue de purifier un peu le public, lui donner un idéal. Et parmi les admirateurs de Corneille, on relève aussi le fameux père Boulard. Il y a Santeuil aussi, c'est un chanoine spirituel Saint-Victor dont j'ai le goût de vous parler un jour, à qui nous devons la devise inscrite sur le fronton de la scène à la Comédie française, « Ridendo castigat mores », c'est en riant qu'on purifie les mœurs. Et oui, on doit ça à un religieux, à la Comédie française. Enfin, comme, je vous l'ai dit, Corneille trouvait chez les jésuites une approbation qui le rassurait pleinement sur son œuvre. Il le témoigne lui-même. Et j'ai purgé notre théâtre des ordures que les premiers siècles y avaient incorporées et des licences que les derniers y avaient souffertes, écrit-il. Il se flatte même d'y avoir, dit-il, fait régner en leur place les vertus morales et politiques et quelques-unes même des chrétiennes. Et c'est en ces termes exprès qu'il justifie son œuvre dramatique dans la dédicace qu'il adresse au pape Alexandre VII en lui offrant la traduction complète des quatre beaux livres. On appelle ça des livres, c'est des grands chapitres. Puis à l'intérieur, il y a justement des chapitres de l'imitation de Jésus-Christ en 1656. Mais parlons-en de l'imitation. La traduction de l'imitation de Jésus-Christ, dont je vous ai dit un mot au début, était une entreprise digne vraiment de tenter le génie chrétien de Pierre Corneille. Et on a cru longtemps, évidemment, que si l'auteur du Cid et d'Horace s'est attaché à traduire ce chef-d'œuvre de Thomas Kempis, lui, il accorde l'imitation à Gerson comme auteur, mais c'est Thomas Kempis qui l'a écrit. Je vous ai déjà fait une émission là-dessus, d'ailleurs. Mais c'est afin, lui, de se consoler de l'échec de ses dernières tragédies. Ça avait pas marché, les dernières tragédies, surtout la dernière. Et par esprit de pénitence aussi, puis peut-être pour expier, pour réparer le mal que son théâtre aurait pu faire. Vous savez, les jansénistes avaient une influence très forte à l'époque. C'est une erreur, au fond, quand on pense ça. Il entreprend cette traduction, il semble, en plein triomphe théâtral, à la veille même de Nicomède, qui est de 1651, puis c'est à ce moment-là qu'il commence. On a remarqué que le texte de l'imitation devait être depuis longtemps familier à Pierre Corneille. Il méditait l'imitation depuis toujours. Et les fameux vers, là, « Je suis maître de moi comme de l'univers », ça rappelle à s'y méprendre ces phrases énergiques du livre 3 de l'imitation. Mon Dieu, j'ai trouvé ça où donc, à la page 422. Ai-je la page 422 quelque part? J'espère que oui. Alors, voilà. C'est tout le reste, et c'est la traduction en vers, hein, tout le reste aisément avouera sa défaite. Si tu sais de toi-même une fois triomphé, le combat est fini, la victoire est parfaite. Quand l'amour propre fuit, ou se laisse étouffer, qui se dompte à ce point qu'il tient partout soumise, sa chair à sa raison, et sa raison à moi, Jésus, ne craint plus aucune surprise, et demeure le maître, et du monde, et de soi. C'est très très beau cette traduction, c'est très riche, et c'est merveilleux. C'est souvent qu'un dialogue de l'âme avec son créateur et Pierre Corneille à l'expérience de ses conversations avec Dieu. Et quel accent de vérité dans les strophes suivantes. Hein, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Je dis ton serviteur quand enfin je le suis, je veux l'être. C'est vraiment le beau langage de Corneille. Pierre Corneille a écrit une espèce de commentaire à un passage d'imitation qui dit « Amaneshiri », c'est « aime être ignoré ». On le trouve au quatrième chapitre du troisième livre de l'imitation. Dans la paraphrase où Corneille met simplement à nu ses sentiments d'humilité chrétienne. C'est écrit, je lis les deux vers de l'imitation de Pierre Corneille. Je le veux, ô mon Dieu, si je fais quelque bien pour en louer ton nom, qu'on supprime le mien. Alors, l'imitation est achevée en 1656, et pour satisfaire sa piété, bien, Corneille donne encore plus tard, écoutez bien, c'est long, un titre très long, mais il traduit tout ça, l'Office de la Sainte Vierge traduit en français, tant en vers qu'en prose, avec les 7 psaumes pénitentiels, les vêpres et complis du dimanche, et tous les hymnes du bréviaire romain. Quel travail! On y trouve dont le psaume 125, là, à Sion quand le Seigneur, là, ou ces strophes sur les captifs qui rentrent à Jérusalem, nous font penser à tous ces prisonniers du monde entier, à l'œuvre de l'ACATE, de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Et la vie privée de Pierre Corneille n'est pas indigne de ses écrits, hein? Le spectacle d'édification chrétienne qu'il donne à sa famille, à ses frères, à ses sœurs et plus tard à ses enfants, eh bien, il l'offre aussi à sa paroisse, hein? Il est assidu aux offices de l'Église. Il y a pas beaucoup de gens à Rouen, enfin, parlons des gens du monde, là, qui sont à cet égard plus scrupuleux que lui. Il est pas, disons pas scrupuleux, c'est plus attentif, plus fidèle. Il est l'un des meilleurs auxiliaires du curé de sa paroisse. Et dès 1626, il est encore jeune, il est marguillé, comme l'a été son père. Et pour l'exercice de 1651, c'est 25 ans plus tard, 1552, il figure comme trésorier en charge. Il tient le registre de la fabrique de Saint-Sauveur, il a été baptisé. Et soit dit en passant, on peut y lire que Pierre Corneille fait réparer la croix processionnelle que Jeanne d'Arc mourante a embrassée, sur laquelle elle a fixé ses derniers regards avant de mourir, brûlée vive par les Anglais. Lorsqu'il change de résidence et s'installe à Paris, s'il ne remplit pas les fonctions de marguillier à Saint-Eustache ni à Saint-Roch, il n'en est pas moins successivement un habitué de ces deux églises. Il s'y rend tous les jours, nous dit Fontenelle, le fameux Fontenelle. Car, dit Fontenelle, il a plus de piété que le commerce du monde n'en permet ordinairement et que son genre d'occupation n'en permet par lui-même. Puis ajoutons qu'il récitait tous les jours le bréviaire romain, ce qu'il a fait sans discontinuer, dit Fontenelle, pendant les 30 dernières années de sa vie. À partir de 1683, les infirmités arrêtent, l'œuvre de son génie. Et tant qu'il le peut, bien, Corneille poursuit avec les livres de l'imitation de Jésus-Christ, la conversation intérieure, comme on l'a rapporté. Conversation intérieure. Ça rappelle la vie intérieure dont parlait Don Chautard hier. Dans la dernière semaine de septembre, en 1684, son état s'aggrave si fort que le père de la chaise, qui a donné son nom au cimetière de la chaise à Paris, croit devoir en avertir Louis XIV. Et le roi, dans un beau mouvement de générosité, fait porter à Pierre Corneille, à ce grand poète dont il admire l'intelligence, 200 louis d'or. Si bien remarque l'auteur Jean Racine que les dernières paroles de Corneille sont des remerciements pour Louis le Grand. Le surlendemain, il entre en agonie, et ce grand Pierre Corneille expire la nuit du 30 septembre au 1er octobre, un peu avant minuit, donc il est mort le 30 septembre, et non pas le 1er octobre, comme on dit dans bien des livres. Il est inhumé le lundi 2 octobre à Saint-Roch, à Paris, pas dans le cimetière attenant l'église, mais par honneur, après réflexion, comme le montre une rature de l'acte de décès, là. Il est enterré dans l'église même, il est enseveli là. À une place, écoutez, dont le souvenir est perdu. On ne sait même pas où c'est. Terrible! Dans l'imitation, j'ai trouvé une belle prière. Je vous la lis. Des merveilleux effets de l'amour divin. Alors le fidèle parle et dit, « Je te bénis, Père Céleste, Père de mon divin Sauveur, qui rend en tout lieu ta faveur pour tes enfants si manifeste. J'en suis le plus pauvre et le moindre, et tu daignes t'en souvenir. Combien donc te dois-je bénir et combien de grâces y joindre? Ô Père des miséricordes, ô Dieu des consolations, reçois nos bénédictions pour les biens que tu nous accordes. Tu répands des douceurs soudaines sur l'amertume des ennuis. Et tout indigne que j'en suis, tu consoles toutes mes peines. J'en bénis ta main paternelle, j'en bénis ton Fils Jésus-Christ. J'en rends grâce au Saint-Esprit. À tous les trois, gloire éternelle. Ô Dieu tout bon, ô Dieu qui m'aime, jusqu'à supporter ma langueur, quand tu descendras dans mon cœur, que mes transports seront extrêmes, c'est toi seul que je considère comme ma gloire et mon pouvoir, comme ma joie et mon espoir, et mon refuge en ma misère. Mais mon amour encore débile tombe souvent comme abattu, et mon impuissante vertu ne fait qu'un effort inutile. J'ai besoin que tu me soutiennes, que tu daignes me consoler, et que pour ne plus chanceler, tu prêtes des forces aux miennes. Redouble tes faveurs divines, visite mon cœur plus souvent, et pour le rendre plus fervent, instruis-le dans tes disciplines. Affranchis-le de tous ses vices, déracine ses passions, efface les impressions qui forment les molles délices, qu'ainsi purgé par ta présence, à tes pieds je ne puisse offrir. Net pour t'aimer, fort pour souffrir, stable pour la persévérance. Et Jésus-Christ lui répond, « Connais-tu bien l'amour, toi qui parles d'aimer? L'amour est un trésor qu'on ne peut estimer. Il n'est point de plus grand, rien de plus admirable. Il est seul à soi-même, ici-bas comparable. Il sait rendre légers les plus pesants fardeaux. Les jours les plus obscurs, il sait les rendre beaux. Et l'inégalité des rencontres fatales ne trouve point en lui des forces inégales. Charmé qu'il est partout des beautés de son choix, quelque charge qu'il porte, il n'en sent point le poids. Et son attachement au digne objet qu'il aime donne mille douceurs à l'amertume même. » Et ça se continue, des pages et des pages. Mais il y en a plus de 500. C'est d'une richesse et d'une beauté absolument admirables. Oh, une autre petite parole. Qui me la donnera, Seigneur, cette joie où mon âme aspire, du pouvoir seul à seul te montrer tout mon cœur et de jouir de toi comme je le désire? C'est le chapitre 13 à la fin, ça.